Vous êtes avec SBS French.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Alexandre Dacosta est un extraordinaire violoniste et soliste. Il est apparu comme soliste invité et chef d'orchestre dans plus de 2000 concerts sur 4 continents et plus de 30 pays dans les lieux les plus prestigieux au monde, avec des orchestres et des chefs renommés. Il est maintenant aussi directeur artistique et chef attitré de l'Orchestre symphonique de Longueuil au Canada. Il est en ce moment en Australie avec la Willoughby Symphony. Alexandre, bonjour et bienvenue sur les ondes de SBS en français.
Bonjour.
Alors, avant de revenir sur votre carrière, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est la Willoughby Symphony?
Eh bien, l'orchestre de Willoughby, c'est un orchestre qui est basé à Sydney. Ils ont une très belle programmation. L'orchestre joue sous la baguette de Nicolas Milton, avec qui je jouerai d'ailleurs cette semaine. Donc oui, c'est un plaisir d'être ici. Sydney, c'est une très grande ville. C'est vraiment magnifique. Alors, de pouvoir jouer dans une belle salle aussi comme The Concourse, c'est toujours agréable.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, nous parler justement des spectacles qui vont avoir lieu avec la Willoughby Symphony?
En fait, je jouerai le concerto pour violon de Max Bruch, qui est certainement un des concertos les plus connus, les plus appréciés. J'ai joué la pièce, disons, très souvent dans ma carrière, peut-être plus d'une centaine de fois, mais à chaque fois, c'est vraiment un challenge pour que ce soit encore mieux. Et donc, je me prépare avec beaucoup de sérieux. C'est un petit peu comme se préparer pour les Olympiques. On peut jamais penser à la dernière performance qu'on a donnée, mais bien à celle pour laquelle on se prépare. Alors donc, pour moi, c'est toujours un plaisir de revisiter la partition et puis avoir un nouveau chef, un nouvel orchestre. C'est tout est une connexion humaine dans la musique classique. Donc, chaque orchestre ou chaque chef d'orchestre a des qualités différentes et puis donc, il faut s'adapter. Et donc, pour moi, c'est toujours un mouvement vers l'avant.
Alors, vous parlez de préparation. Comment est-ce qu'on se prépare? Est-ce que c'est un peu comme un grand sportif qui va vers sa compétition mentalement, physiquement? Quel genre de préparation est-ce que ça demande?
Ben oui, absolument. Il y a beaucoup de similarités entre le sport et la musique classique. Je dirais que l'entraînement, il doit être un peu constant parce que, bon, à la différence des sportifs, on ne fait pas toujours les mêmes mouvements ou la même chose, dans le sens que la semaine dernière, j'étais à Séville en Espagne, je jouais le concerto de Wagner. La semaine avant, j'étais ailleurs, je jouais une autre pièce ou un autre programme. Là, cette semaine, c'est le concerto de Bruch et la semaine prochaine, c'est autre chose. Donc, on est constamment en mouvement artistique, mais disons que la partie plus manuelle de la chose, qui est vraiment être physiquement préparé pour jouer des grandes œuvres, on s'entraîne pour ça et on reste entraîné à un certain... C'est comme si on restait dans la petite bulle de confiance pour toujours être prêt. Mais il y a aussi un côté intellectuel, donc le côté qui est plus en phase avec la création et puis l'analyse des partitions. Donc, c'est un petit peu plus rive gauche, mais c'est très important aussi dans la musique, parce que si on n'est qu'un technicien, ben ça s'entend, ça fait que il n'y a pas de sentiments qui peuvent être communiqués au public, et ça, c'est le plus important. Il faut que les gens, quand ils viennent au concert, ils ressentent quelque chose. S'il n'y a que l'éblouissement d'une technique parfaite, il manque absolument un grand côté de ce qu'est la musique classique, en fait.
Comment est-ce que vous faites, par exemple, c'est pas que jouer, mais c'est aussi avoir mettre ses émotions en dehors, vraiment se donner, se lâcher. Pour vous, comment est-ce qu'on arrive à donner cette émotion au public?
Ben, je pense que dans mon cas, c'est la musique classique ou la musique en général, que ce soit classique ou autre, elle fait partie de ma vie depuis tellement longtemps. Et la scène aussi. Donc, monter sur scène, c'est quelque chose qui est naturel pour moi, normal. et aussi quelque chose qui est devenu un peu nécessaire. Donc, s'il y a des semaines sans concert, je deviens un peu nerveux parce que j'ai pas cette relation avec le public. C'est un peu fou d'en parler comme ça parce que, bien sûr, j'ai une vie personnelle pleine et satisfaisante, mais le contact au public, de pouvoir utiliser mon violon ou diriger un orchestre et vraiment faire passer des sentiments, un grand nombre de gens qui viennent dans la même salle écouter un concert, c'est tellement magique, c'est tellement électrisant que c'est devenu une sorte de drogue pour moi. Alors, je veux absolument toujours me surpasser, mais toujours sentir que les gens sortent du concert avec soit un sourire ou une mélancolie ou quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit éveillé dans le cœur des gens lorsqu'ils vont au concert. Sinon, on écoute un disque, on fait d'autres choses, on reste chez soi. Mais aller au concert, c'est voir, c'est entendre, c'est sentir. Donc, c'est vraiment une expérience complète.
Vous en parliez, la semaine dernière vous étiez à Séville, là vous êtes à Sydney, vous repartez au Canada dans une semaine, puis vous revenez en Australie pour 2 semaines après. Donc vous êtes musicien aussi, chef d'orchestre, professeur, et puis alors vous avez joué dans plus de 2000 concerts, dans plus de 30 pays. Ça doit être un rythme de vie assez excitant. Comment est-ce que vous faites pour enfiler ces différentes capes et puis faire tous ces voyages?
Ben c'est très excitant en effet, mais quand on est dedans, on n'y pense pas vraiment, on fait juste regarder l'horaire et on va une journée à la fois. Donc, mais quand on regarde un petit peu de loin, on se dit « ouais, c'est quand même assez fou » parce que, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Séville, je suis allé 24 heures chez moi au Canada, j'ai vu mon fils, je fais une petite activité avec lui, après je repars l'autre côté du globe complètement, après des concerts juste en sortant de l'avion et ça repart comme ça. Et si on regarde toutes les semaines, elles sont à peu près toutes comme ça, non? Enfin, pour les prochains mois, dans mon cas. Mais ce genre d'activité, ça devient vraiment le normal, au jour le jour. Alors, après, quand il y a un moment où est-ce qu'il y a moins de choses, il y a deux choses qui se passent. Un, on est heureux de pouvoir se poser un petit peu, avoir une petite routine qui est en fait artificielle, parce que c'est la vraie routine, c'est celle de prendre des avions et de faire des concerts, mais juste d'avoir un semblant de routine, c'est agréable pendant quelques semaines. Et aussi, il y a une autre chose qui arrive, c'est que on manque ce train de vie aussi. On se dit, ouais, là, je fais du surplace, là, ça marche pas. Et moi, quand ça fait plus de 4 semaines que j'ai pas pris un avion, je dis, ouf, ça va pas, là, il y a quelque chose qui vient d'arrêter. Et puis, il faut que je retourne à la planche à dessin ou des trucs comme ça. Et la même chose pour les projets. Donc, si je ne fais que rejouer les mêmes choses ou penser de la même manière et j'ai pas de projet de créativité, je me sens sur place. Alors, il y a des moments où est-ce que oui, il y a plein de choses qui se passent, il y a beaucoup de concerts, beaucoup d'activités, mais mentalement, j'ai l'impression de faire du sur place. Alors, tout de suite, je pense à un nouveau projet, je développe, j'utilise toutes ces heures d'avion, toutes ces heures d'attente finalement, parce qu'il y a beaucoup d'attente quand on fait des grands voyages, on doit suivre la structure qui nous est imposée. Donc, finalement, ça devient une routine aussi et je me perds dans mes pensées, mais ça me fait du bien aussi parce que comme ça, je peux vraiment penser à la prochaine étape dans ma carrière, dans ma vie de musicien et puis aussi personnel.
Alors, musicien, chef d'orchestre, professeur, ça doit être stimulant d'avoir toutes ces possibilités de faire des choses différentes.
Je suis musicien. Donc, à partir de là, on peut, oui, utiliser le violon comme médium, mais diriger, c'est tout simplement être un leader qui inspire d'autres musiciens. Donc, je le fais de facto depuis très longtemps. C'est juste que là, j'ai été nommé à la tête d'un orchestre et ça, je pense que c'est quand même une grosse différence dans la perception des gens. J'ai toujours été un musicien qui se considère comme un leader, mais maintenant, c'est comme si, au lieu d'avoir un archet et un violon, parfois, je n'ai qu'un bâton de chef d'orchestre. Et là, vraiment, ça touche tout de suite l'imagination des gens. Et comme professeur, j'ai été de longues années ici en Australie, en fait, basé à Perth, à l'Université Edith Cowan. Et j'ai beaucoup aimé ces années d'enseignement à temps plein. J'ai su aussi jongler et comprendre le système universitaire anglo-saxon, ce qui est très, très bien. Maintenant, je pense que je viens d'avoir 40 ans. J'ai vraiment envie de voyager, de donner des concerts et tout. L'enseignement est très important pour moi, mais je crois que c'est complémentaire à ma carrière de soliste et de chef. Alors, dans cette optique, disons que j'ai décidé de prendre cette opportunité qui m'est offerte d'être chef attitré de l'Orchestre symphonique de Longueuil pour les 5 prochaines années. Et bien sûr, tous les autres concerts à l'étranger, les masterclass à donner et tout, ça fait quand même un bon horaire. Donc, je pense que pour les prochaines années, je vais garder cette structure, mais il n'est pas impossible ou improbable qu'un jour, je me retrouve de nouveau dans une structure universitaire à pouvoir passer un petit peu l'information qu'on m'a donnée et que j'ai pu aussi bonifier avec les années d'expérience. Donc, je pense que j'ai beaucoup de choses à donner et enseigner. Le violon ou la musique, c'est quelque chose qui se fait d'humain à humain. On ne peut pas faire ça une personne ne peut pas enseigner à 300 personnes en même temps. C'est vraiment un à un. Et ça a toujours été comme ça et ça sera toujours ça. Donc, c'est un plan d'affaires qui n'est peut-être pas super viable au niveau de l'efficacité d'aujourd'hui, mais c'est ce que c'est. Donc, comme société, il faut comprendre qu'on investit dans l'art, dans la culture. Donc, on doit soutenir ces structures-là et on doit aussi savoir que non, on ne peut pas vraiment donner le même produit à tous. Il faut vraiment choisir nos étudiants et leur donner le maximum pour que cette connaissance soit passée de génération en génération.
Alors, votre parcours est impressionnant. Vous êtes un artiste absolument reconnu. Racontez-nous comment tout a commencé. Alors, vous êtes né au Canada. Vous donnez vos premiers concerts à l'âge de 9 ans. Vous êtes un jeune virtuose. Quand est-ce que la musique est-elle devenue une évidence?
En fait, je viens d'une famille d'artistes. Donc, pour moi, je pense que si on vient d'une famille de scientifiques, on est porté vers la science ou même chose pour la médecine et tout. Donc, moi, il y avait de la musique autour, il y avait des vernissages, il y avait des expositions d'art visuel. Donc, il y avait tout ça. J'ai décidé que c'était le violon, je pense, assez tôt parce que ma mère aimait beaucoup écouter Yehudi Menuhin, par exemple. J'ai choisi naturellement d'aller vers le violon. Et comme dans ma famille, les arts, c'est quelque chose qui est très important et très sérieux, ben, il y avait la pratique quotidienne se faisait de manière systématique. Et je pense que la piqûre de la scène, je l'ai eue très, très tôt. Alors, une fois qu'on a été sur scène et on a donné un concert à 5 ou 6 ans, je pense qu'après, on a envie de donner plus de concerts. Et moi, j'ai toujours été assez à l'aise, peut-être, on peut dire, sur scène. Donc, j'ai pas de... Oui, j'ai le trac, j'ai un peu de stress avant le concert, mais j'aime monter sur scène, j'aime l'adrénaline. Donc, et ça fait depuis toujours. Alors, mon but a toujours été de me surpasser ou de me préparer, me développer comme bon musicien pour qu'on puisse me donner l'opportunité de me produire sur scène. Donc après, tout ce qui s'est passé après, à l'âge d'adolescence ou bien après comme jeune adulte, c'est que j'avais un but. Et le but était d'être soliste à l'international parce que mon violon, c'est ma manière de voyager. C'est la manière que j'ai choisie pour pouvoir aller à des endroits où est-ce que jamais je pourrais aller normalement, avec un travail ou un job normal. Donc, ouais, je suis très chanceux. Je suis vraiment heureux de ce qui se passe pour moi. Ça fait quand même presque plus que 2 décennies maintenant que je sillonne un peu la planète pour faire des concerts. Alors, j'espère simplement que ça va continuer et que je vais pouvoir continuer à partager de la musique avec beaucoup de monde.
Un moment, alors que vous faites ça, j'allais vous demander, est-ce que vous avez quelques anecdotes qui vous ont marqué à travers votre carrière jusqu'à maintenant? Bon, il doit y en avoir pas mal, peut-être 1, 2 ou 3. Voilà, quelques anecdotes à nous faire partager qui vous ont marqué. Ça peut être un concert, une rencontre, une musique, quelque chose.
Ben, définitivement, la première anecdote qui est importante parce qu'elle a vraiment changé ma vie, c'est une rencontre avec Yehudi Menuhin. Je sais, j'avais 4 ans et demi.
Alors peut-être vous pouvez nous expliquer qui est cette personne?
Bien sûr, bien sûr. Alors, première anecdote définitivement dans ma carrière, c'est lorsque j'ai rencontré le grand violoniste Yehudi Menuhin, qui est vraiment considéré comme une des plus grandes stars du violon, mais aussi un des plus grands musiciens et philosophes de son temps. Et donc, Yehudi Menuhin, il était le violoniste que ma mère écoutait, mais il était aussi le violoniste qui prêtait sa voix à des cassettes. Dans ce temps-là, c'était des cassettes qui parlaient des compositeurs comme Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven. Donc, on entendait la voix de Menuhin et on l'entendait jouer aussi. Et donc, comme enfant, ça m'a beaucoup marqué. Alors, à 4 ans et demi, quand je l'ai rencontré, de manière totalement illicite, parce que, en fait, ma mère et moi, on est rentrés dans la salle de concert par la porte de côté pour éviter d'avoir à payer les billets que nous ne pouvions payer à ce moment-là.
Vous pouvez le dire maintenant.
Oui, c'est ça. Ouais. Et on est arrivé devant lui. Donc, il était juste au moment avant de rentrer sur scène et à 4 ans et demi, on n'a pas de filtre. Alors, je lui ai dit, ouais, bonjour, Monsieur Menuhin, je vous connais. J'écoutais toutes vos cassettes et puis moi, je veux être violoniste comme vous. Et puis, voilà. Alors, il a pris quelques moments de sa vie juste avant de monter sur scène pour me parler. Ça m'a beaucoup marqué. Et à partir de là, je savais que c'était absolument ce que je devais faire. Donc, et cet homme-là, je l'ai rencontré 2 mois avant son décès. En Espagne, j'étais étudiant et il a dirigé l'orchestre de l'université où j'étudiais et puis je lui reparlais. Donc, c'est vraiment full circle. Alors, c'était vraiment fantastique de pouvoir avoir un contact comme ça avec un artiste d'une grande qualité et qui m'a beaucoup inspiré.
Est-ce qu'il se souvenait de vous?
Je pense pas, non. Mais... Ben peut-être, on ne saura jamais, mais je sais que pour moi, ça a beaucoup influencé ma manière de voir tout le cheminement. Non? Et je ne me suis jamais posé la question si vraiment être violoniste ou musicien, c'était ce que je devais faire ou ce que je voulais faire, parce que ça a toujours fait partie de ma vie. Mais lorsque je l'ai rencontré de nouveau à la fin de mes années d'adolescence, j'ai vraiment su que j'avais fait le bon choix et pris la bonne voie. Et puis, bon, des anecdotes, il y en a partout. Il y en a vraiment... Il m'est arrivé des choses absolument incroyables.
Racontez-nous.
Un peu partout.
Oui,
hein,
oui.
J'ai passé des nuits dans des aéroports avec un volcan qui est en éruption qui m'empêchait de prendre des vols. J'ai rencontré des chefs absolument fabuleux qui m'ont enseigné à être une meilleure personne. J'ai vu des endroits qui vraiment, j'aimerais retourner. Je ne sais pas si je vais avoir la chance d'y retourner, mais en l'espace de quelques années, j'ai vraiment fait le tour du monde. J'ai des goûts gastronomiques qui sont vraiment très particuliers parce que maintenant, manger du sushi ailleurs qu'au Japon, c'est un challenge. C'est quand on peut comparer des choses. Et puis j'ai rencontré aussi des politiciens de très haut niveau avec qui j'ai eu une relation directe parce que l'artiste n'est pas une personne normale ou considérée normale. Donc, on peut s'asseoir à la table des grands sans nécessairement avoir affaire là. Et puis, dire des choses sans nécessairement que ce soit pris au sérieux. Donc, on est un peu comme le Joker. Donc, on peut dire des choses un peu osées parfois. Et donc, j'ai rencontré des premiers ministres, des politiciens, des gens, des décideurs, de la royauté, le roi, la reine. Donc, c'est un peu particulier. Donc, j'aurais de la difficulté à parler d'anecdotes précises parce qu'il y en a tellement qui viennent à ma mémoire. Mais je peux dire une chose, c'est que cette vie est une vie privilégiée, oui. Il y a beaucoup de choses absolument fabuleuses, mais c'est une vie difficile aussi. C'est très, très difficile de pouvoir percer comme musicien. On est toujours en train d'être jugé de nouveau. Chaque concert, c'est le retour à la case départ. Et c'est très rare qu'un violoniste ou un musicien atteint un niveau de reconnaissance tellement élevé qu'il a carte blanche où il veut aller. Et donc, ça, c'est quelque chose qui reste un challenge dans la vie. Aujourd'hui, je peux dire que dans certains territoires où j'ai un public qui m'est très fidèle, donc lorsque je propose un projet un petit peu différent ou un petit peu plus osé, les gens ont l'esprit ouvert. Et c'est le cas pour le Québec, par exemple, où est-ce que j'ai vraiment l'impression de pouvoir être très créatif et que les gens sont ouverts à ce que j'ai à leur proposer. Mais d'un autre côté, j'ai beaucoup de chapeaux. Et c'est drôle aussi, une anecdote générale sur la personne que je suis, c'est que la personne que je suis en Espagne est absolument différente de la personne que je suis en Australie. Donc, j'ai comme cette espèce de double personnalité ou triple ou quadruple. Et c'est un peu les gens qui voyagent avec moi ou qui me voient ailleurs. Ça doit être bizarre pour eux parce que quand j'arrive en Espagne, je me sens comme un Espagnol. J'ai habité là-bas 15 ans, je parle très, très bien espagnol. Et puis, je suis beaucoup plus macho que lorsque je suis chez moi au Québec. Et quand je suis en Australie, je suis probablement plus diplomate que lorsque je suis chez moi au Québec ou définitivement en Espagne. Donc, et ça se fait pas comme si... C'est pas un choix... qui est conscient, c'est que j'arrive ici et il y a quelque chose qui se passe et ça a une influence directe sur la personne que je suis ou comment je parle ou comment même je joue. Alors, moi, je pense qu'un jour, il faudra que je sache qui je suis vraiment de toutes ces personnalités, mais je pense que le fait de voyager comme ça et de pouvoir côtoyer des gens de plusieurs cultures différentes, ça a définitivement un grand impact sur la personne humaine que je suis.
Pour avoir plus d'informations sur les concerts à venir, c'est sur votre site internet?
Oui, absolument. Donc, c'est www.alexandredacosta.com. Et puis, je suis un adepte de Facebook aussi. Alors, si ça vous tente de voir un petit peu ce que je fais, ce que je vois, où je suis, ben, je suis toujours sur Facebook, en fait.
Bon, on vient de parler de beaux projets. Est-ce que vous avez encore des futurs projets à nous parler dont, justement, on n'a pas encore parlé?
Oui, bien sûr, mais j'ai fait, jusqu'à maintenant, j'ai enregistré 27 albums, donc j'ai couvert beaucoup de répertoires de base et aussi des œuvres plus rares, donc vraiment dans une tradition plus traditionnaliste de la musique pour violon. Et maintenant, j'entame une carrière de chef aussi en parallèle, ce qui est très excitant pour moi. Mais il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que en tant que musicien classique, on est souvent très fermé à tous les autres styles de musique, et on ne devrait pas. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y a vraiment des musiciens fabuleux qui œuvrent dans le jazz, le rock, la pop et tout. Et j'ai un peu été corrompu par ça il n'y a pas trop longtemps. Et puis j'ai enregistré justement un album qui se veut comme ce qu'on appelle ici crossover, mais c'est plus que ça parce que j'ai pris la musique de Bach, de Pachelbel, donc il y a plus de 300 ans, et puis je l'ai amené dans des styles rock, pop, jazz, avec des artistes collaborateurs, et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, et j'ai jamais senti que je faisais ça contre les valeurs de ma musique. J'ai toujours pensé et j'ai toujours senti qu'en faisant un tel projet, au contraire, peut-être c'était la manière d'attirer une nouvelle génération ou des gens qui pourraient être de grands amateurs de musique classique, mais qui ont encore un petit peu peur. Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de résistance dans mon milieu. Dès qu'on fait quelque chose en dehors du cercle préétabli, on nous traite de rebelles. Et ça, c'est drôle parce que dans les médias au Québec, on me l'a dit super souvent. Il dit Alexandre, ouais, vous êtes tatoué, vous avez une moto et vous faites du rock. Qu'est-ce qui arrive? Je dis, il arrive rien. C'est juste une forme de vivre sa vie et d'être créatif et d'aller un petit peu plus loin et puis de pouvoir élargir les horizons. Et puis, je pense que la musique classique pure restera toujours au cœur de ma vie professionnelle et personnelle. Mais il faut avoir un peu de plaisir dans la vie. Alors, j'aimerais, dans le futur, s'il peut y avoir plus de ce genre de projet, ce sera toujours le bienvenu.
Alors là, ça va être un peu une question difficile, mais est-ce que vous pouvez nous décrire en trois mots votre musique? Comment vous la voyez?
Le problème avec les trois mots, c'est que ça va être très prétentieux parce que c'est ce que j'aspire à être. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi encore, mais s'il y avait trois mots que j'aimerais un jour qu'on puisse associer à ma musique ou à ce que je fais, c'est profondeur, force et puissance.
Alexandre Dacosta, merci d'avoir été avec nous sur les ondes de SBS en français.
Merci beaucoup.
Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBSFrench.